Le micro se trouve de quel côté? À ma gauche. Le monsieur à côté de vous.
Donatien Kambou pour Top Info. Bon, à suivre vos exposés, je crois, s'il faut faire la compilation de vos exposés. Bon, personnellement, je suis un peu déçu parce que les termes que vous reprenez toujours, la situation est relativement calme, volatile, imprévisible. Donc, apparemment, comme s'il n'y a aucune issue de sortie pour les Congolais, de voir comment les gens meurent là-bas et que la situation... Donc la situation ne s'améliore pas parce que c'est relativement volatile et tout ça. Et en dehors de ça même, vous comprendrez que les Congolais qui nous envoient ici, les Kinois qui nous envoient ici, donc ils attendent de nous, ils attendent de nous ce que la MONUSCO peut amener pour nous dire que voilà, il y a une amélioration ou voilà telle issue de sortie pour les Congolais pour mettre fin à la guerre. Donc je vous dis que la situation est tendue.
Quelle est la question, s'il vous
plaît? La question, c'est une préoccupation pour dire que, en tout cas, l'opinion publique que nous représentons ici n'est pas satisfaite de vos termes-là, de volatiles, de ces...
Très bien, merci. Merci pour votre commentaire. Autre question, s'il vous plaît. Oui, monsieur, au fond de... Oui, au fond, tout droit.
Merci beaucoup, c'est Médard Mbolela pour le compte de la radio-télévision ACK. Je crois que dans quelques heures, le mini-sommet sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, initié par le secrétaire général des Nations Unies, va s'ouvrir. Et j'espère que ces mini-sommets étaient préparés par la MONUSCO. Et bien avant que ces sommets soient tenus, je ne sais pas si vous pouvez nous révéler ce qu'on peut attendre de ces mini-sommets en dehors des rencontres et en dehors de tout ce qui s'était déjà passé. Et la deuxième question, c'est sur le plan humanitaire. Il y a eu 2-3 semaines où l'on nous faisait voir que la situation sanitaire au niveau de la province orientale était préoccupante avec l'épidémie d'Ebola. Je ne sais pas si au niveau de l'OMS, il y a déjà des avancées pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre fin à cette épidémie. Merci.
Merci. Concernant la première question qui porte sur le sommet de haut niveau qui va s'ouvrir demain à New York sur la RDC, la situation à l'est de la RDC, je ne suis pas à mesure de vous dire ce qui va sortir de ce sommet, sinon je serais un dieu. Le sommet n'a même pas eu encore lieu. Par contre, je peux vous dire que le représentant spécial du secrétaire général, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, s'est rendu à New York, non seulement pour prendre part à la session, donc 67e session de l'Assemblée générale, mais également pour être présent au cours de ce sommet-là qui va s'ouvrir demain. Le sommet a pour objectif de mobiliser les efforts et de sensibiliser, j'allais dire aussi, la volonté politique. Donc de mobiliser le maximum de gens sur la situation qui prévaut actuellement à l'est de la RDC. Et donc surtout, notez bien, c'est une occasion pour les autorités concernées, celles de la RDC et les autres bien sûr, de réfléchir ensemble sur les voies et moyens pour arriver à une solution pacifique. Ce que la communauté internationale, y compris bien sûr les Nations Unies, ce que nous préconisons bien sûr, c'est le dialogue. Et que de manière pacifique, le parti concerné arrive à une solution qui puisse satisfaire les uns et les autres. Donc, ce sommet est un forum de réflexion. Merci. Il y avait une deuxième question concernant l'humanitaire. Il y a bien quelqu'un de l'humanitaire dans la salle. Yvon, est-ce que vous pouvez vous approcher d'un micro?
Alors, concernant la situation de la fièvre Ebola en province orientale, l'OMS et l'UNICEF ont reçu à ce jour près de 1,7 million de dollars américains pour la réponse. Cette réponse inclut évidemment traiter les cas, la sensibilisation, la communication. À ce jour, le bilan le bilan des cas se situe à 78 cas, tous confinés dans la province, en province orientale, et les efforts de réponse continue avec l'OMS et l'UNICEF et d'autres partenaires aussi dans la province.
Merci, Yvon. Autre question, madame, en rouge.
Oui, c'est Lorinda Ireba FM. Des informations nous parvenues signalent que l'Union africaine a driblé la RD Congo. Et en reconnaissant déjà le mouvement M23 et que la MONUSCO n'y trouve pas d'inconvénients. Qu'en dites-vous?
Vous avez bien dit que...
L'Union africaine. L'Union africaine, ils reconnaissent déjà le mouvement M23.
Oui.
Et que la MONUSCO n'y trouvait pas d'inconvénients. Qu'en dites-vous?
Bien, rien, absolument rien à dire par rapport à ça. Si ce que vous dites est fondé... Bien, ce sont les déclarations d'une personnalité de l'Union africaine et je n'ai pas de commentaire à faire sur ce qu'une personne de l'Union africaine dit. Hein. Ce qu'elle dit, l'engage. Merci. Juste à côté de la dame qui vient de parler.
Je récupère donc cette question. Roger Marley, le Congo CMCTV. Du porte-parole militaire, nous avons appris que des forces onusiennes et des forces armées de la République démocratique du Congo surveillent étroitement la situation au nord Kivu. Cependant, les correspondants des presses sur place relatent que le M23 a déjà hissé ses drapeaux administratifs et installé ses dirigeants territoriaux dans les territoires occupés. Pendant ce temps, quelle attitude et observation devons-nous réserver à cette situation ?
Oui. Si j'ai bien compris votre question, elle s'adresse au lieutenant-colonel.
À tout le monde. La question que vous posez, c'est de celle de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Ou bien reprenez votre question, je ne l'ai pas bien compris.
Donnez-lui le micro, s'il vous plaît.
Nous, quelle attitude devons-nous réserver devant cette question? Parce que vous avez dit que vous êtes en train de surveiller la situation de connivence avec les éléments des FRDC. Mais sur place, les rebelles ont déjà hissé leur drapeau administratif et installé des autorités territoriales sur le territoire qu'ils occupent. Alors nous, que devons-nous réserver comme attitude, comme observation?
Bon, d'abord, peut-être qu'il faudra définir le « nous ». S'il s'agit des journalistes ou s'il s'agit de toute la population congolaise. Mais il est évident qu'au fil des conférences de presse que nous avons tenues ici, nous vous avons informé chaque semaine de ce qui se passe, particulièrement dans le Rutshuru, où même M. Hervé Latsou, le secrétaire, le chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, a lui-même clairement déclaré devant le Conseil de sécurité qu'une administration de facto avait été établie dans les zones occupées par le M23, particulièrement dans le territoire de Rutshuru. Et nous avions dit aussi ici que le M23 avait déjà initié certaines activités, notamment le remplacement des autorités administratives légalement désignées par le pouvoir congolais dans le Rutshuru, où aujourd'hui ils sont en train de mettre en place une administration, une police, même le patron du territoire a été remplacé. Donc maintenant, votre question, qu'est-ce que nous devons attendre de ça? Ce que nous devons attendre de ça, je pense que aujourd'hui, cette question est d'actualité dans la mesure où toutes les solutions ou toutes les pistes sont en train d'être explorées, aussi bien les pistes diplomatiques, les pistes politiques, et aussi, à un moment, nous avons vu que les pistes militaires aussi étaient en train d'être initiées, notamment par la mise en place du mécanisme conjoint de vérification, mais aussi par la mise en place d'une équipe d'experts militaires qui a été déjà mise en œuvre depuis samedi à Goma, lancée par tous les ministres de la Défense des pays de la Conférence internationale des Grands Lacs. Donc je pense que toutes ces activités combinées, aussi bien diplomatiques politique que militaire, nous amèneront à avoir une situation dans le Rutshuru particulièrement beaucoup plus meilleure. Mais en dehors du Rutshuru, les FRDC et la force de la MONUSCO sont déployés dans les zones concernées et veillent surtout, en ce qui concerne la force, à ce que des exactions ne soient pas commises sur les populations civiles, et les FRDC restent vigilantes pour éventuellement prendre en compte la menace sécuritaire que pourraient engendrer les éléments du M23 dans cette zone.
Madame, je reviens à vous tout à l'heure. Monsieur, à côté du micro, voilà.
C'est Saint-Germain et Bingo, ami du peuple. Il n'y a pas 6 jours qu'on vient de fêter la journée mondiale de la paix. Et ce matin, on a appris à travers les ondes la série des agressions, n'est-ce pas, dans le nord Kivu, plus précisément vers les campus universitaires du lac. Et à la lumière de ce qui précède, je voudrais savoir votre analyse combinatoire entre cette journée mondiale de la paix, dont le souvenir est encore d'actualité dans nos mémoires, et les caractères fragiles de l'environnement sécuritaire.
Parlez dans le micro.
Dans cette partie du pays, c'est-à-dire votre analyse combinatoire entre la journée mondiale de la paix.
Merci.
Voilà.
Merci beaucoup. Je ne vois pas.
Colonel.
Bon, merci. Je réponds tout de même. Hein. Je pense que c'est la même chose. Je ne vois pas de lien du tout entre la célébration de la journée internationale de la paix et ces incidents. Et ces incidents auxquels vous faites allusion, monsieur, je ne vois aucun lien, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît.
C'est Patricia Mouli pour Antenna. Je reformule sa question pour dire ceci. Nous avons reçu des informations faisant état des tirs hier soir de 21h jusqu'à ce matin, 3h du matin à Goma. Monsieur le porte-parole, militaire peut nous donner quelques éclaircissements parce que dans son verbatim, il n'a pas fait mention de cela.
Oui, merci pour votre question. Effectivement, il y a eu des incidents, comme vous le savez, sporadiques. C'est l'œuvre des bandits armés, parce que vous avez bien remarqué que ces jours passés, il y a eu beaucoup d'incidents. D'abord, il y a eu une grenade qui a été lancée dans un bar, et il y a eu aussi des attaques perpétrées par des bandits armés dans la ville de Goma, ce qui a d'ailleurs provoquer un peu l'ire de toute la société civile et même des populations, voire des autorités administratives. Et c'est dans ce cadre-là que le plan de protection interne de la ville de Goma a été revisité par toutes les composantes sécuritaires de la ville de Goma, bien sûr notamment avec la MONUSCO, pour essayer de prendre en compte cette nouvelle forme de menaces qui se profilent dans la ville de Goma. Mais comme vous savez, madame, des incidents sporadiques de ce genre existent tous les jours, et ceci ne met pas en cause ou ne remet pas en cause la sécurité globale de la ville de Goma ou de la province du Nord Kivu, qui est prise en compte aussi bien par les FRDC que la force de la MONUSCO pour essayer d'apporter un minimum de soutien et de réconfort aux populations civiles qui en ont besoin.
Merci, c'est mon colonel. Derrière la dame qui vient de parler.
Carlos Mpili pour la CSRP. Ma préoccupation sur le porte-parole sur le développement. On peut savoir sur la suite des travaux par une OPSE sur la construction de l'hôpital moderne à Kalole dans le territoire de Shabunda. La réhabilitation de la route Bukavu-Shabunda dont vous avez parlé, et vous avez été prévenu que les opérateurs économiques de Bukavu travaillent toujours dans le noir pour empêcher tout projet pareil, parce que pour eux, territoire de Shabunda riche, enclavé, c'est une bonne affaire pour eux. Deuxième préoccupation, c'est à M. Alex. Maintenant, la loi sur la portée à modification de la loi sur la CENI bientôt est en chantier au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'à votre niveau, comme vous êtes là pour conseiller vous êtes conseiller en matière électorale, est-ce que vous êtes déjà, qu'est-ce qu'on peut savoir et qu'est-ce qu'il y a de votre rapport pour gérer les problèmes
Merci beaucoup. Excellence. Merci. La première question s'adressait à Dorothée, peut-être?
Oui. Les travaux se poursuivent sur la route Bouralé-Chabunda, les 304 km de route. Ils en sont à la deuxième phase de travaux, donc après la première phase de réouverture. Je n'ai aucune information sur un blocage des travaux. Les travaux sont en cours jusqu'aux dernières nouvelles. Si vous voulez plus d'informations sur l'état de la route tronçon par tronçon, nous pouvons probablement nous rencontrer après. Mais il n'y a pas... aux dernières nouvelles, il n'y a pas de blocage des travaux. Il y a évidemment toujours une situation à prendre, une situation sécuritaire à prendre en compte, qui demande aux ingénieurs de l'UNOPS et aux sociétés nationales qui travaillent sur la route de s'adapter aux conditions, comme vous pouvez l'imaginer, mais il n'y a pas de blocage de la route. Voilà. Merci.
Et concernant la deuxième question qui portait sur la restructuration ou plutôt le projet de restructuration de la CENI, eh bien évidemment c'est un draft, hein, un projet, mais qui est encore un draft qui va être soumis bien sûr à l'Assemblée nationale pour que celle-ci décide de l'adoption de ce projet-là. Il s'agit effectivement donc de porter le nombre de membres de la CENI de 7 à 11. Et nous en sommes actuellement donc à l'étape de projet, et sans plus. Voilà. Merci. Je voudrais... Oui, d'accord. Au fond de la salle, une question et on passe à la droite. Hein.
Oui, c'est Alain Kabongo pour le journal La Presse du Congo et l'agence Bloomberg. À la veille du sommet de New York, je veux savoir, la MONUSCO nous avait aidé à établir la responsabilité du Rwanda dans les soutiens du M23. Je ne sais pas, à la veille de ce sommet, est-ce que la MONUSCO, qui a donné assez d'informations à l'ONU, peut affirmer aujourd'hui qu'il y a agression de la République démocratique du Congo? Utiliser les termes agression. Et en deuxième lieu, je veux juste savoir, il y a un journaliste qui a été arrêté à Kananga, puis transféré ici à Kinshasa, qui s'appelle Pierre Kambidi, et qui est détenu depuis un mois. Je ne sais pas si la division de droits de l'homme de la MONUSCO l'a rendu visite et peut nous dire quel est le moral du journaliste. Merci.
Très bien. Pour la première question, est-ce que la MONUSCO reconnaît qu'il y a eu bel et bien agression? C'est bien ce que vous avez dit. Hein? Vous nous ramenez en arrière, monsieur. Je pense que c'est une question dont on a longuement débattu. Évidemment, la RDC a été agressée. C'est pour ça qu'il y a ce sommet qui a été convoqué au plus haut niveau pour réfléchir sur, je l'ai dit tout à l'heure, les voies et moyens d'arriver à pacifier cette partie de la RDC. C'est quelque chose qui n'est pas, ce n'est pas un secret ici, non? Qu'il y a eu agression de la RDC. Hein? Nous avons parlé du M23, nous avons parlé donc des exactions que ce mouvement commet à l'Est. Nous avons même parlé, nous avons utilisé des termes assez forts, d'administration parallèle. Et les mots ne viennent pas de moi, ils viennent du chef du département des opérations de maintien de la paix. Donc nous avons parlé de tout cela, donc ne nous ramenez pas en arrière. Nous voulons aller de l'avant. Merci. Deuxième question, c'était sur, je crois, Chabunda. Ah, pardon, je m'excuse. Donc, le journaliste est effectivement arrêté. Nous avons quelqu'un de la division des droits de l'homme, mais je voudrais que vous réserviez cette question pour la fin de cette conférence de presse et vous voyez la personne, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais passer maintenant à la droite. Le micro est... Voilà, madame, à côté.
C'est Ginette Oussimé, ça pour le compte de Congo Web Télévision. La société civile du Nord qui vous parle déjà de la position du M23. Est-ce que la MONUSCO qui se trouve là-bas confirme cela?
Moi, je n'ai pas compris votre question. Si vous pouvez la reprendre pour
moi. La société civile du Nord qui vous parle déjà de la position du M23. De crimes et puis de viols. La MONUSCO qui se trouve là, confirme-t-il cela?
C'est une question à laquelle j'aurais du mal à répondre, madame, parce qu'elle est vague. Elle est vague. Je voudrais plutôt passer à une autre question. Messieurs, debout, en chemise blanche. En chemise blanche, debout.
Merci. On m'appelle Benoît Kambere Lusumba. Je suis du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs. La semaine dernière, la chronique a été défrayée par une affaire au tribunal de grande instance de la Gombe, où la CNI a été condamnée avec le PNUD et la MONUSCO au déguerpissement de l'immeuble que la CNI occupe aujourd'hui. Et il a été solidairement condamné à payer des indemnités d'occupation et de dommages-intérêts à la banque TMB. Comment cette nouvelle a été accueillie au niveau de la MONUSCO? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, elle nous vient de Kiwanja, de notre correspondant à Kiwanja, qui fait état, la partie occupée par le M23, qui fait état d'altercation entre deux civils travaillant à la MONUSCO, qui sont censés être protégés par la MONUSCO, n'est-ce pas, des interprètes avec des soldats indiens. Et ces soldats indiens auraient même braqué une arme à ces deux interprètes congolais qui se plaignent, qui se demandent si la MONUSCO est là pour traquer les Congolais ou plutôt pour s'attaquer aux envahisseurs. J'ai dit.
Pour rebondir sur votre deuxième question, j'avoue que je n'étais pas informé de cet incident. Je ne sais pas tout, vous savez, donc vous voudrez bien me comprendre. Mais ce que vous venez de dire là relève plutôt d'incidents internes hein, à la MONUSCO. Cela ne relève pas d'insécurité. Qui menace la population congolaise en tant que telle. C'est des incidents, c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est notre administration où, il y a des sections au sein de la MONUSCO qui s'occupent de ce genre d'aspects. Mais encore une fois, ce ne sont pas des sujets d'intérêt général. Donc je voudrais qu'on laisse ce genre de discussion de côté. Pour revenir, pardon.
Je pourrais, avec votre permission, peut-être intervenir, parce que d'abord il faut préciser que cette nouvelle, je viens de l'apprendre comme M. Touré, et deuxièmement, je veux dire tout simplement que on peut pas non plus se faire l'écho tout simplement de choses qu'on vous communique comme ça, parce que ce genre de comportement, ou en tout cas ce genre d'incident que vous venez tantôt de mentionner, trouverait difficilement matière au sein de la MONUSCO, parce que si on sait que les interprètes travaillent justement pour ces contingents, si on sait que entre cette composante et la composante force de la MONUSCO, les relations ont toujours été très cordiales et empreintes de respect, je ne vois pas pourquoi est-ce que des soldats indiens pointeraient leurs armes contre des interprètes qui travaillent pour la MONUSCO comme eux. C'est pour ça que vous me permettrez quand même de m'interroger sur ce genre d'informations. Parce que
oui,
je n'y crois pas.
Merci, mon colonel. Sur la première question, le déguerpissement, vous avez dit, hein, et de la CENI et de la MONUSCO, de cet immeuble où ces deux structures étaient logées. Oui, c'est le cas, certes, mais je ne suis pas en position de m'étendre sur cette décision qui a été prise hein, par les autorités. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise par rapport à une insolvabilité? Encore une fois, adressez-vous plutôt aux autorités qui ont décidé que ces deux structures, l'une nationale et l'autre des Nations Unies, quittent cet immeuble. Adressez-vous à ces autorités-là et elles pourront vous en dire un peu plus. Moi, je ne peux pas vous en dire davantage. Merci. Autre question, monsieur, juste là.
Oui, nous voulons savoir la population congolaise concrètement. Il y a un cessez de feu entre... Oui, d'abord, je m'appelle Mim Samuel, le journaliste explorateur. Est-ce qu'il y a un cessez de feu entre les M23 et les FARDC? Ou bien, il y a une collaboration entre les M23 et les FARDC et puis la MONUSCO? Parce qu'il n'y a plus d'attaque et puis nous sommes toujours comme ça avec des négociations. Bon, qu'est-ce qui arrive maintenant?
Bon, si vous permettez, je vais répondre très rapidement à cette question. Il n'y a jamais eu de cessez-le-feu décrété de part et d'autre, mais ce que nous observons, c'est une trêve. Cette trêve, elle permet tout simplement à d'autres acteurs de pouvoir trouver des solutions idoines à cette crise afin de réconcilier aussi bien les parties, mais surtout à mettre un terme à la crise qui sévit au Nord Kivu. Nous avons tous entendu aussi le chef de l'État. Les options qui sont privilégiées sont aussi bien militaires, politiques que diplomatiques. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut donner une chance à la paix en laissant les acteurs internationaux, les acteurs locaux, les acteurs régionaux à œuvrer ensemble pour trouver une solution ou alors une issue heureuse à cette crise qui endeuille l'Est de la République démocratique du Congo.
Merci, mon colonel. Oui, en face de moi.
Oui. Jean-René Bompolonga pour le compte du journal Le Phare. Pour le sommet qui s'ouvre demain à New York, j'aimerais savoir du côté des Nations Unies qui prendront part à ces sommets. Et puis ma deuxième question, c'est sur le virus Ebola. Est-ce que c'est déjà sous contrôle? Merci.
Pour le sommet, je vous l'ai dit et je le répète pour la troisième fois, le représentant spécial chef de la MONUSCO sera à ce sommet. Vous pouvez le deviner aisément. Hein, les autres personnes qui seront présentes, évidemment, il y aura la partie congolaise et la partie rwandaise. Maintenant, quelles sont les autres personnes qui seront présentes, je ne peux pas vous le dire. Hein. Il y a des choses qui vont de soi. Et c'est vraiment cela que je viens de vous dire. C'est-à-dire que nous, notre représentant sera présent pour des raisons évidentes. Et évidemment, la partie congolaise sera représentée ainsi que la partie rwandaise. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant.
Je pourrais rajouter pour dire que les représentants des pays, des 11 pays de la Conférence internationale des Grands Lacs seront présents et que ce sera élargi aussi aux membres de la SADC qui seront présents à cette réunion. Mais si je comprends bien votre question, il faut la préciser. Est-ce que le M23 sera là-bas? Le M23 n'y sera pas. Ah, ok, d'accord.
Oui, contre le mur, monsieur. Pardon. Oui, il y avait une question sur Ebola. Ok.
Alors, un cas de... En fait, en ce qui concerne l'Ebola, c'est assez technique parce qu'il y a des cas confirmés, il y a des cas probables, il y a des cas suspects. Donc en fait, de semaine en semaine, le bilan fluctue. Donc on peut dire que oui, la maladie est toujours active, puisque, comme je disais tout à l'heure, évidemment, chaque jour, des cas peuvent être soit confirmés, soit infirmés. Ce qui change en fait le bilan de la maladie. Mais il est prudent de considérer que la maladie est toujours active afin d'inciter les populations locales à respecter les règles d'hygiène qui ont été préconisées par l'OMS et l'UNICEF.
Merci Yvon. Monsieur, contre le mur, à ma droite.
Faustin Yelimbasila pour le magazine Grand Reporter d'Afrique. Bon, l'opinion congolaise en général est au courant de l'effort, sait pertinemment l'effort que fournit la mission onusienne depuis une dizaine d'années. Évidemment, la lecture synoptique de toute la situation montre que la courbe exponentielle de votre intervention, je parle de la MONUSCO, il y a des fois où ça monte, il y a des fois également où ça baisse. Si aujourd'hui on disait que la mission devait prendre fin aujourd'hui, pensez-vous que le bilan de la MONUSCO au Congo est positif?
Bien, ce sera au peuple congolais d'apprécier l'intervention de la MONUSCO après une décennie, comme vous l'avez dit vous-même. Bon, c'est une question hypothétique, hein, donc je ne pense pas qu'il faille épiloguer là-dessus. Nous sommes certains d'une chose, nous arrivons à faire une différence dans la vie, dans le quotidien des Congolais, dans ces zones qui sont hautement instables. Allez-y vous-même, vous allez le constater. Nous avons envoyé des journalistes sur le terrain, ils ont touché du doigt les réalités du terrain. Ils peuvent vous dire ce que nous faisons sur le terrain. Et si vous vous rendez vous-même, vous vous rendrez compte de vous-même également, de notre apport. Donc, je voudrais m'attenir à cela et souhaiter une excellente journée aux uns et aux autres et à mercredi prochain. Merci.